BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on est parti sur notre débrief de l'actu IA. Il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment, avec ce fameux kill switch d'il y a déjà une semaine. Et on va revenir dessus. Ouais. Ça nous laissera rebondir sur Vivatech aussi, parce qu'il s'est passé pas mal de choses aussi à Vivatech, sur SpaceX qui a racheté Cursor. Là aussi, c'est un des gros événements dans l'actu IA. Et puis, tiens, on terminera avec OpenAI, avec une équation. Est-ce que l'équation est impossible? Vincent nous expliquera tout ça. Et on débriefera avec, justement, Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron du digital chez Framatome, membre du COMEX. Merci Vincent d'être avec nous. Stéphane Roder, fondateur des AI Builders. Bonjour. Merci Stéphane. Et Emmanuel Vignon, Head of AI et vice-président engineering chez Generix. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Merci à tous. On démarre. Alors, on a suivi ça, hein, tout le monde a vu, on voit un soir arriver sur nos annonces là, de presse, Claude sort deux versions de Mythos, alors une qui est un peu plus puissante, mais vraiment sera destinée à qu'un ensemble précis de personnes, et puis Fable 5, qui sera une version un peu bridée pour un peu le tout venant, et puis quelques jours plus tard, ah non, finalement, ce sera bien, mais que pour les citoyens américains. Les citoyens américains, les entreprises américaines, par ricochet, n'y auront pas accès. Et ça nous apprend pas mal de choses, tout ça. Stéphane.
Oui, ça nous apprend que...
Alors Stéphane, là, c'est comme une tondeuse. Hein, je démarre, je lance le et c'est parti. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais vous aussi.
Non, mais on voit que finalement, un des moteurs de l'industrie va être l'IA. Là, on avait un modèle Fable 5, pour le coup, qui exécutait de longues tâches, donc qui marchait très très bien pour tout ce qui est prise en charge, en fait, de longs raisonnements, actionnant des outils, des agents, de la gentille, qui finalement, toute la partie BPO que souhaitent reprendre les Américains. Et bien, on voit que c'est une décision business. Ça aurait pu être une décision sécurité sur Mythos et la partie.
Oui, on le rappelle, hein, première, au tout début, quand ils ont lancé Mythos, Anthropique avait dit attends, on va pas le donner à tout le monde parce que c'est tellement puissant, ça va chercher des failles partout, donc on va le donner à des Microsoft, des Palo Alto, des spécialistes, enfin des gens vraiment sélectionnés sur le.
Là, c'était bridé sur la cyber.
Oui.
Donc, si la cyber n'était pas là, c'est que c'était sur la productivité. Mmh. Et donc, en fait, ils ne lâchent pas un modèle qui semble être ultra performant, sur lequel ils veulent être le seul utilisateur. Et donc, finalement, c'est un peu comme si on avait, nous, du 50 volts, alors qu'eux, ils ont du 220, au point de vue, finalement, moteur de l'industrie.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet politique aussi? Parce qu'on sait que, voilà, entre Anthropique et l'administration Trump, ça ne se passe pas forcément hyper bien.
Il paraît qu'il y aurait eu un coup de fil de Jeff Bezos pour dire...
Ouais. Vincent.
Non, mais alors, d'abord, c'est pas un kill switch. Il y a effectivement un désaccord entre les États-Unis et Anthropique, avec des infos contradictoires.
Hein,
la presse. Les US disent Anthropique n'a pas été réactif, donc on a agi. Anthropique dit on l'a été, mais ça n'est pas limité à des non-américains, cette technologie. Il faut aussi noter que le risque, trouver des vulnérabilités avec un modèle, en fait, quand on regarde bien Mythos, ils ont bien marketé leur modèle, mais les autres modèles permettent la même chose. Et d'ailleurs, les protections qu'on met sur ces modèles n'enlève pas cette possibilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des façons de les contourner. Il y a même des repos GitHub dans lesquels il y a des modes d'emploi de contournement, modèle par modèle. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont montré comment on pouvait contourner sur Fable. Il y a cet échange qui s'est mal engagé et puis ça a été arrêté. Alors, du point de vue du risque pour les entreprises, il n'y avait aucune entreprise dans le monde qui avait déployé Fable.
Oui.
Il n'y avait aucune application qui l'utilisait. Il venait de sortir, les gens étaient en faire le test. En revanche, effectivement, ça frappe l'esprit. Alors, ça frappe l'esprit parce que ça rappelle qu'il y a un risque. Le logiciel mange tout et malheureusement, le système digestif, il est aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des interdictions. D'ailleurs, toute technologie qui est un peu avancée, à un moment, elle fait l'objet de restrictions d'export. La cryptographie, il y a quelques années, on avait impossibilité d'implémenter certains algorithmes ou alors c'était un problème d'export contrôle américain. Alors, la conséquence pour nous, ça nous rappelle des choses que les entreprises qui gèrent leur souveraineté ont déjà en tête. C'est un, il faut gérer ses dépendances, donc il faut avoir d'autres choix. Il ne faut pas dépendre d'un seul modèle. Demain, il peut être arrêté. Et si l'essentiel de votre opération dépend de ce modèle, vous pouvez avoir un problème demain. Et puis, deuxième point, il y a la question des alternatives européennes. Alors, les Européens, comme alternative, ils ont des modèles chinois, notamment aujourd'hui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et on aimerait bien qu'il y ait des solutions non américaines. Moi, je rêverais d'un accord entre quelques grands pays européens, les Canadiens, les Australiens, on met 1 ou 2 milliards et on a un modèle open source qui est ni chinois ni américain de bonne performance.
Oui. On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord entre les Français et les Allemands, donc je ne sais pas si cette vision sera possible, mais sur ce qui s'est passé avec Fable 5, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est la concrétisation d'une théorie qui avait été écrite par plusieurs auteurs ou plusieurs articles, dont ça me rappelle le livre de Asma Mala qui est sorti en 2024,
qui était sur la géopolitique,
voilà, technopolitique, et qui parle justement de cette fusion un peu des deux mondes, big state et big tech, et qui explique que en fait les deux mondes sont en fait extrêmement liés l'un entre eux. Et donc elle parle de cette souveraineté liquide où finalement on n'arrive plus trop à savoir si la souveraineté c'est l'apanage d'un État, d'un corps étatique avec son pouvoir régalien, ou si finalement il y a une transmission de ce pouvoir qui est donnée à les entreprises. Et en fait on voit bien que Trump a besoin de ces technos-là pour maintenir la sécurité sur le territoire américain, mais en même temps Anthropic il a aussi besoin, pour ne serait-ce que pour maintenir une équation économique, de pouvoir déployer ces modèles au-delà du modèle, au-delà du marché américain.
Et surtout d'avoir des salariés non américains.
Et surtout d'avoir des salariés
non américains. Qui sont la majorité d'ailleurs dans cette industrie.
Ouais. Voilà.
Et est-ce que tout ça, Stéphane, est-ce que c'est quelque part ça un petit électrochoc pour l'Europe aussi ? On parle de souveraineté, on voit bien que ça y est, c'est monté. Alors souveraineté, il y a plein de choses, la dépendance technologique, dépendance économique, enfin, gardons un peu ce mot ombrelle souveraineté. Là, ça nous dit que ça joue quand même un peu en notre faveur, à nous Européens, là, des décisions comme celle-ci.
Oui, mais il faut qu'elles soient comprises. Regarde, ce qui a été dépensé sur l'AI Act, c'est certainement des centaines de millions, alors qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement pas d'IA, finalement, d'infrastructure IA. Donc, en fait, on a une commission...
Ça se construit, mais enfin, voilà.
Oui, mais on a une commission européenne qui n'est pas consciente. Ou alors, on a un personnel politique qui, au global, depuis 5 ans, ne comprend pas les enjeux. Ou commence à les comprendre. Mais en tout cas, il faut qu'ils se reprennent et qu'il y ait des décisions politiques, pour le coup, qui nous permettent d'avoir des alternatives et non pas un seul modèle provider comme on a aujourd'hui, qui est certainement excellent mais qui est sous-financé. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a qu'une seule banque française qui a investi dans Mistral, ce qui n'est pas normal.
Et qui est BNP.
Oui, BNP, mais il en faut d'autres. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait que ça soit surinvesti. En fait, c'est tellement maintenant stratégique, on le voit. Ça est au cœur de la dynamique de la transformation des entreprises et de la compétitivité. On le dit depuis longtemps, mais là, je pense que c'est une réalité.
Vincent, sur réaction européenne.
Un commissaire européen qui m'avait dit, l'indépendance, c'est dépendant d'influences contradictoires. Donc il y a une partie de l'indépendance pour nous qui est effectivement d'avoir plusieurs fers au feu entre les modèles chinois, américains. Bon, on aimerait bien quand même qu'il y en ait un européen de performance comparable, ou en tout cas non américain. Du point de vue de l'Europe, je pense que le risque, c'est quand même toujours aussi... Alors il y a toujours deux risques. Hein. Le combat majeur de la productivité, il se fera 90% sur la diffusion. Et donc évidemment... être propriétaire de la technologie du modèle, c'est important. Mais si pour ça, on met tellement de freins à nos entreprises qu'on perd le combat à la diffusion, on y perdra. C'est un peu le truc de l'IA Act, qui est un machin qui met des boulets aux pieds de nos entreprises. Donc je pense que là, effectivement, ça nous rappelle, c'est bien de rappeler des évidences, et quelquefois les gens ont plus besoin d'exemples qui frappent que de théories, donc de ce côté-là c'est bien. Je pense que ça nous rappelle on est en retard sur ces composantes, c'est bien. Attention au combat de la diffusion pour Internet, c'est là-dessus que c'est fait. Internet a créé à peu près 20 points de PIB sur 25 ans, 90% c'était de la diffusion. Donc attention au combat de la diffusion, celui-là il fait pas de bruit, c'est des petits systèmes qui bougent dans des PME, mais c'est celui qui fera le plus mal si on le rate.
Je pense qu'il y a alors, la réaction, je ne sais pas si c'est lié à cette histoire de Fable 5, mais On en a beaucoup parlé, notamment parce que ça a été annoncé à Vivatech. Schaps Vision, qui remplace Palantir à la DGSI, c'est typiquement ce genre de signaux qu'il faut multiplier pour montrer qu'il y a une décision de la puissance publique d'investir sur des solutions qui sont européennes ou françaises.
Oui, mais ça a dû être il y a 5 ans.
Peut-être, mais réjouis-toi que ça se fasse aujourd'hui.
Ah, je me réjouis.
Parce que je pense que...
Énormément.
Voilà. Et je pense qu'il en faut d'autres. Il en faut probablement d'autres, mais même...
Mais en même temps, l'avis de Jeff Bezos. Ça,
oui. moi, je me réjouis le jour où on dit on le fait parce que la solution européenne est vraiment plus performante. Mm-hmm. Là, on sait que ce jour-là, on n'a pas pris de risque sur la diffusion.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts parfois à dire... on entend ce discours. Hein, oui, j'ai pris une solution. Alors, elle est un peu moins performante. Bah, notamment Mistral.
C'est pas un problème.
La Mistral, c'est ça. Ou elle peut être moins performante sur certains domaines, mais au moins là, je suis tranquille.
Enfin, ouais, mais en fait, on peut faire jouer à l'achat public un rôle qu'il déplace. C'est-à-dire que la DGSE, c'est particulier. L'achat public en général, l'État, il est plutôt low-tech. Donc, penser que c'est par l'achat public qu'on rattrapera le combat des modèles et qu'on accélérera le combat de la diffusion,
voilà.
C'est avoir raté la courbe.
Exactement. 90%, enfin, j'ai pas fait d'études, mais 80% ou 90% des use cases d'IA aujourd'hui ne requièrent pas Fable 5, en fait. Et même pas un frontier modèle. Donc, en fait, commençons par des cas d'usage relativement simples. Commençons par travailler sur l'acculturation de l'IA en entreprise avec les modèles qu'on a à notre disposition. Et je reprends ce que tu dis, Vincent, ça peut être très bien des modèles chinois dès lors qu'on arrive à les déployer sur une infrastructure on-premise. Faisons-le. Et puis surtout, plus on va mettre des utilisateurs et de l'argent dans les solutions européennes, et plus elles vont se développer, plus on va leur donner les moyens qu'elles se développent.
Et de ce côté-là, le développement de Mistral est vraiment une bonne chose. Leur stratégie d'attaquer par verticale, c'est quand même dans ces verticaux, notamment industriels, que je voulais compléter.
Et que les entreprises jouent le jeu aussi, qu'elles y aillent aussi. On l'a vu lors de l'événement Mistral.
Mais à la fin, c'est toujours l'économie qui gagnera. Donc, il faut vraiment que ça fonctionne de façon performante.
Oui, mais Vincent a dit une chose très importante, c'est l'utilisation. Aujourd'hui, si tu regardes la popularité ou... la notoriété de Mistral, ils sont totalement inconnus. Les gens connaissent OpenAI, ChatGPT.
Spontanément, oui.
Oui, spontanément.
Non, c'est pas vrai. Spontanément, les gens, ils pensent à Mistral.
Non, parce que Vincent parlait des ETI et des PME et de la diffusion. Ouais. Et la diffusion, elle est importante. Et aujourd'hui, on a... Alors, Arthur Mensch, très très bon technicien, ingénieur, extraordinaire et tout. Par contre... être marketeur. Il faut faire du marketing à l'américaine, mais bien sûr, pour que ça soit connu.
Non, je pense qu'il a choisi une course différente. Et je pense que de l'intérêt de la France, faire que le design nucléaire et les recherches de données de la DGSE se fassent avec Mistral et que le tout un chacun utilise des solutions de marché américaines, je pense que c'est mieux que l'inverse. Et leur choix de la verticalisation qu'ils ont répété, c'est vraiment de mettre le paquet là-dessus. Donc, une partie du marché que tu évoques, en fait, n'est pas dans leur cœur de cible aujourd'hui.
Oui, mais il n'empêche que tu as bien dit qu'il fallait que les gens l'utilisent pour que ça existe.
Oui.
Bon, donc il faut que ça soit connu.
Alors justement, tiens, un petit mot. Est-ce que vous êtes tous les trois allés à Vivatech ?
Oui.
Ouais.
Ouais. Les retours, je ne sais pas, Vincent, quel premier retour tu en as ?
Alors,
autour de l'IA, bien entendu.
Dans les constantes, il fait chaud, il y a beaucoup de stands.
C'était sur trois niveaux, parce que
beaucoup plus grand que
les hauteurs.
Le hall, c'est en travaux.
Ils ont verticalisé le salon.
Voilà, ils ont verticalisé. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent la partie, il y a un grand immeuble qui se construit, du coup, je suis en train de tout refaire en bas. C'est sur trois niveaux. Les allées étaient plus étroites. C'était un peu moins pratique, moi, j'ai trouvé.
C'est un peu la Fashion Week du digital, sauf que là, les modèles sont plutôt des modèles IA. Plutôt intéressé par les modèles IA que par ceux de Dior, donc ça tombe bien. Après, dans les choses un peu... il y a quand même beaucoup de keynote centrées autour des grands acteurs américains. Oui. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, qui est un peu dans l'esprit de tout le monde, ça crée un écart. Donc je pense que l'an prochain, à mon avis, ça sera très différent.
Alors, quelqu'un m'a fait cette remarque,
oui. Il y a
peu de speakers chinois également.
Je dis oui, on parle beaucoup de souveraineté. Il dit oui, on parle beaucoup de souveraineté dans les allées. Mais dans les keynotes.
Jeff Bezos qui parle.
Ça n'était que de.
Oui, mais c'est sûr que Jeff Bezos, il fait venir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver.
Il y a des acteurs IA qui auraient fait venir aussi. Tu aurais fait venir la ministre de la Défense européenne. Tu aurais eu un panel sur ces sujets-là, sur la souveraineté. Ça aurait fait venir aussi. Après, je pense que ça s'est fait plus en amont. Ils n'avaient pas prévu, Mythos une semaine avant l'ouverture de VivaTech.
Oui, c'est sûr. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un salon qui grossit, qui prend de l'ampleur, qui s'internationalise beaucoup.
Ah, il y a beaucoup de pavillons étrangers.
Énormément de pavillons étrangers.
Indiens.
Allemands.
Allemands, 200 startups allemandes, deux ministres fédéraux allemands qui se déplacent. Donc ça, ça positionne VivaTech comme étant le CES européen.
Et la France au passage, ce qui est bien.
Forcément. Ouais. Oui, puisque ça, c'est en France. Il n'y a pas de salon équivalent en Europe. Il n'y a pas de salon équivalent, en fait.
Donc Cebit en Allemagne qui était...
Ouais, à l'époque. La micro-informatique,
c'était la micro-informatique à la machine-outil. Hein, c'était...
Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les robots. Il y a beaucoup de physical AI. C'est Jensen Huang qui disait ça dans sa keynote, qui parlait de physical AI. Alors, ça a déjà certainement été employé, mais il y avait beaucoup plus de robots que les années précédentes, de robots humanoïdes.
Et encore, il y aurait dû en avoir plus, mais comme ont dit certains constructeurs, ils me disent oui, mais tu comprends, au prix du mètre carré, parfois, on se dit à quoi ça sert de montrer 5-6 robots, enfin de payer très cher, parce que c'est des stands, il y a des stands à plus d'un million d'euros.
C'est un peu cher.
Donc, parfois, pour montrer 3-4 robots.
Ça montre que la R&D des robots humanoïdes, l'écart entre la Chine et l'Europe se réduit un peu. Alors, bien sûr, Unitree est toujours. Un peu l'acteur principal worldwide, mais quand même, j'ai trouvé ça.
Moi, je trouvais que c'était un peu, il y avait un côté exposition universelle annuelle, parce que les grands groupes étaient là pour démontrer en fait le niveau de technicité à travers peut-être l'IA.
Mais d'ailleurs, ils montraient sans la montrer. Enfin, oui, ils montraient leurs innovations. Et c'est à la fin, tout en bas, c'est marqué by la start-up en question.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose qui a changé. Avant, on mettait en avant les start-up qui étaient autour du. Alors, on mettait là le grand fagnon LVMH, Total, EDF, et puis autour, il y avait les start-up. Et là, je voyais chez LVMH, c'était toutes les marques. Et les start-up, elles étaient à l'intérieur. Enfin, elles s'effaçaient pas, mais ils avaient intégré des technos.
Le mortard a repris la main.
Ouais, c'est ça.
Le mortard a repris la main et. Bon, en fait, c'est l'entreprise qui se met à nu et montre en fait son innovation. Et par contre, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas encore de solution côté IA, mais c'était encore très très technologique. On fait ça, on fait ce modèle, on fait ce truc-là, alors que on est en plein dans la transformation des directions métiers. Et donc, en fait, la demande vient d'arriver, et ben on voit bien que l'offre, elle n'est pas là.
Ouais. Un point, une image qui a frappé tout le monde, hein, c'est les deux robots qui défoncent complètement la SAD.
Qui cassent les écrans, ouais.
Bon, alors on se dit, ça y est, les gilets jaunes débarquent à VivaTech. Non, en fait, ça rappelle ce que dit très bien Yann Lequin, c'est-à-dire que les robots qu'on voit qui font des danses, en fait, tout est scripté. Et s'il y a un écran à l'endroit qui n'était pas prévu, là, je pense que c'était Unitree, donc des très bons robots. En fait, les robots d'aujourd'hui ne sont pas intelligents. Ils reproduisent des gestes qui ont été complètement
scriptés. Ils dansaient à un moment dans leur chorégraphie. Ouais. Ils étaient trop près des écrans. Du coup, c'est comme s'ils détachaient les écrans. Et c'est vrai que l'image était assez impressionnante. Ouais. Non, ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est l'histoire des startups. Et je me suis dit, pour les quelques gros, alors patrons, hein, pas des head of AI ou des DSI, je me suis dit que c'est retour à la réalité aussi. C'est-à-dire que les patrons se rendre compte que l'IA c'est important, mais que faut avancer pas à pas, quoi. Les cas d'usage, faut voir ce qu'on veut, faut voir en plus comment ça peut influer les organisations des entreprises, et que c'était pas juste où l'année dernière on se dit allez, je vais mettre de l'IA partout, ça va être formidable.
C'est ce que disait Vincent, c'est le temps de la diffusion, c'est que le time to production est encore beaucoup trop long. Le rythme d'innovation des modèles est beaucoup trop rapide par rapport à la capacité que vont avoir les entreprises à les intégrer, à les digérer pour les déployer à l'échelle.
En tout cas, bel événement, et puis ça permet, on va mettre 650 millions d'euros annoncés par Sébastien Lecornu dans notre administration. Enfin, voilà, on voit que c'est bien qu'il y ait quand même ce rendez-vous qui rappelle un peu que...
Mais c'est important ce que tu dis, Emmanuel, c'est qu'on n'a pas encore les produits non plus qui permettent d'installer facilement. Tu vois, c'est encore compliqué, il faut encore des gens comme nous. Mais on ne devrait pas être là.
Mais oui, mais parce que...
Aujourd'hui, quand tu installes Windows ou quand tu installes Word, bon, ça se fait comme ça.
Mais c'est très simple, c'est que l'IA se nourrit de données, qu'elles soient structurées ou pas structurées, mais en tout cas de données sous forme de 1 et de 0. Or, les processus métiers sont dans la tête des gens.
Oui.
Donc il faut que tu aies un mécanisme qui soit capable... Alors c'est marrant, à VivaTech, il y avait aussi cette expérience-là de contrôle d'un robot par la pensée. Tu l'as pas vu celui-là un peu?
Alors,
qui permet de voilà. Donc peut-être que demain il y aura des interfaces cerveau-machine qui vont permettre de collecter les besoins métiers, les processus métiers.
C'est propre à toutes les phases d'innovation. Donc un, t'as l'exploration, ça part dans tous les sens. Deux, t'as la standardisation. La technologie devient simple et n'importe qui peut l'utiliser. Puis trois, tu déploies. L'automobile, au début de l'automobile, il fallait être mécanicien. Aujourd'hui, personne ne sait comment elle fonctionne. Même d'ailleurs, les gens auxquels tu la confies, oui, ils changent la carte électronique. Donc, on est au début et je trouve que c'est bien là qu'on voit qu'on passe de la phase exploration dans tous les sens à quelque chose où on se pose la question de comment ça arrive sur les process et ça prendra 20 ans au lieu de 3.
Oui.
Autre sujet important, c'est SpaceX hein, qui a racheté Cursor. Donc, on est dans les outils de développement. Emmanuel ?
Oui, alors en fait, on voit que le LLM devient une commodité. Et donc, ce qui compte derrière, c'est le harnessing. Hein, on en avait déjà parlé aussi il y a quelques semaines. C'est qu'est-ce que je mets autour. Et on
voit bien. Rappelons, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Enfin, je pense le harnessing.
Non, et puis même Cursor, c'est un assistant au codage.
C'est un environnement de développement, mais qui vient avec des petits composants qui vont, améliorer la manière dont un développeur va interagir avec un LLM derrière. Voilà. Donc, il va, par exemple, lire l'intégralité des lignes de code, enfin on appelle ça la code base, la base de code, il va l'indexer de façon locale pour améliorer ensuite les tâches de planification ou les tâches de codage. Mm-hmm. Voilà, c'est un exemple de ce que fait. Et ce qu'on voit, c'est que Microsoft, OpenAI, Anthropic et maintenant SpaceX sont les quatre qui sont dotés à la fois d'un LLM et d'un environnement derrière. Hein. Donc Microsoft avec GitHub Copilot, OpenAI avec Codex.
Ouais. Qui est plus un agent peut-être que Cursor, qui est plus l'environnement global.
Oui, mais chacun, justement, c'est là où c'est intéressant. Chacun a un peu ses paradigmes différents ou ses approches un peu différentes. Et on verra bien. Moi, je pense que c'est ça qui est excitant. C'est que les approches ne sont pas juste je copie ce que fait l'autre. Voilà. Et Anthropic, bien entendu, avec Claude Code. Et donc, SpaceX arrive, SpaceX avec XAI, Grok, etc.
Slash XAI, ouais.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça devient un acteur qui arrive sur la scène parmi ces quatre-là. Et je dois reconnaître quand même que le calendrier avec l'IPO de SpaceX est fabuleux. Ouais.
Mais on voit qu'ils font finalement tous des suites complètes. Et on les voit les compléter, tu vois. Claude a mis des composants qui vont faire de la concurrence à Adobe, d'autres sur le code. Et donc, ils sont tous en train de gratter des parts de marché en élargissant le scope de leur suite.
Oui, alors ce que ça rappelle aussi, c'est que la killing application de l'IA, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule, c'est le codage.
Ouais.
Et donc, ouais, un moment, et on en parlera peut-être après, où les gens se posent la question, est-ce que tout ça est soutenable? Est-ce qu'on continuera à faire autant de tokens? On a intérêt à avoir cet aspirateur à token qui est un outil pour que les développeurs l'utilisent.
Mais ça permet de rebondir justement sur...
Après, ça pose pour moi des questions de cohérence, quand même, la stratégie de SpaceX, parce qu'on a, je rappelle, on a diffusé 1 million de data centers dans l'espace, l'IA de Grok, qui servait à faire des images, des fakes sur Twitter, donc maintenant Cursor, donc 20 sur 20 pour l'accumulation des buzzwords, ils ont tous la cohérence stratégique très claire.
Si tu la cherches, tu peux dire que justement, ils créent des fusées pour envoyer des data centers dans l'espace parce que Elon Musk, tout comme Jeff Bezos d'ailleurs, croit dur comme fer que ça va se passer dans l'espace, ce qui reste à prouver globalement. Et après, ils ont leur modèle qui certes a fait parler de lui parce qu'on générait des images un peu inutiles, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs aux États-Unis qui utilisent Grok pour des usages tout à fait respectables.
Alors ça, et voilà. Ça permet de rebondir justement OpenAI, c'est un billet que tu as fait sur X en disant l'équation impossible.
L'équation, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur de dépense de token, on voit qu'il est passé d'à peu près 2000 à 1600, donc réduction du volume d'utilisation de token. Deuxième point, sort GLM 5.2, un modèle chinois qui fait aussi bien que chez PT 5.5, enfin, c'est très comparable pour un cinquième du prix, et comme le prix est subventionné à 2/3, un 1/15 du coût. On a dans le FT des données d'Open Router, qui est un dispatcher de tokens, qui montre que x5 sur les tokens chinois, stable sur les tokens américains. Et puis, en même temps, il y a une introduction en bourse. Donc, il y a SpaceX qui a levé 86 milliards. OpenAI qui veut en lever 120. Anthropic, on ne sait pas. Leur dernière levée, c'est 70 milliards. Donc, il y a des centaines de milliards en fait, qui vont être demandés au marché. Alors que derrière, on voit que c'est un produit dont le coût est challengé et dont le volume l'est aussi. Donc là, la question, c'est comment on boucle l'équation pour un investisseur.
Et Emmanuel, là, sur cette équation impossible, là, pour...
Je ne sais pas si elle est impossible. Je pense qu'il y a aussi des signaux qui montrent que le bilan de OpenAI s'améliore. Par exemple, le chiffre qu'on peut utiliser, c'est le cost of sales. Combien OpenAI dépense pour générer un dollar de revenu? Ce coût, il était autour de 2,60 $ pour un dollar de revenu. C'est-à-dire que OpenAI dépense 2,60 $ pour un dollar de revenu, tout confondu, hein, R&D, cost of sales et tout ça. Et aujourd'hui, il est passé autour de 2,37 pardon en 2024 et on est à 1,60 aujourd'hui. Voilà. Donc et ça se réduit. Donc quelque part, peut-être que OpenAI est en train aussi de trouver son modèle économique. Toute chose égale par ailleurs.
Bien entendu, c'est là où ton point est intéressant. C'est plus qu'il disait sur notre antenne que justement les milliards d'investisseurs. C'était chez François Sorel, Octave Cabat de VH Cloud qui disait, vous savez, les milliards aujourd'hui, c'est du point de vue commercial. Hein, l'entraînement, ça y est, il est fait. Maintenant, c'est l'inférence. Maintenant, c'est tous les milliards, c'est pour développer de l'activité commerciale. Merci, messieurs, d'être venus parler de tout ça. Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron digital chez Framatome, membre du COMEX. Stéphane Roder, président des AI Builders. Et Emmanuel Villon, Head of AI, vice-président engineering chez Generix. Merci de nous avoir apporté votre éclairage, messieurs. On a un peu bridé Stéphane sur le parti parce qu'il allait nous refaire tout le panorama, mais ce sera pour une prochaine fois. On va faire tout le panorama de l'IA en France. Merci à tous les trois. Notre émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.